Génération A bis Z.
Je m'appelle Maître Natalia Zuvac, je suis avocate au barreau de Luxembourg depuis décembre 2017. J'exerce à mon compte au sein de mon étude qui s'appelle FEDISLO.
Je suis Lydie Laurent, j'ai été assermentée comme avocat au mois de février 1980. J'exerce dans le cadre de l'étude LR Avocat.
On a toujours fait ça comme ça.
On va commencer déjà par vous, Maître Laurent. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, quand on regarde, vous avez prêté serment 2 ans après la naissance de Maître Zuvac.
Merci de me rappeler.
Donc, oui. On a une grande génération oui. d'avocats qui vous séparent. C'était comment le barreau à l'époque? J'ai regardé, vous étiez 250 à l'époque oui. où vous avez prêté serment. Vous étiez déjà nombreux à votre assermentation?
Nous étions 20. Et de ces 20, je crois qu'il est resté 6 ou 7 avocats. Tous les autres sont soit devenus magistrats ou sont allés en banque ou à l'administration.
À l'époque, est-ce qu'il y avait beaucoup d'avocats, on va dire, d'affaires ou c'était vraiment surtout pénalistes, traditionnels?
Lorsque j'ai été assermentée, nous avons connu l'émergence des études d'avocats. Ardemidanart n'existait pas encore. Donc, c'était une étude de généraliste avec un avocat d'une grande renom, Ernest Arendt, qui, lui, tâtait au droit des affaires. Moi, j'ai fait mon stage avec Nico Scheff, qui, lui aussi, avait du droit des affaires. Mais à l'époque, nous connaissions pas les structures sociétaires comme maintenant. Nous avions la Holding 29, et avec cela, le droit des affaires fonctionnait plus ou moins. Nous n'avions pas encore de contentieux fiscal, ou du moins pas dans cette envergure. Il y avait de temps en temps une affaire qui était encore toisée par le Conseil d'État, qui avait encore des fonctions juridictionnelles à l'époque. Mais bon, le contexte des avocats était très généraliste. Tout le monde faisait un peu tout.
Et comment c'était les relations? Est-ce que vous me disiez, vous étiez moins de 10 ou 20 avocats par assermentation? Tout le monde se connaissait finalement.
Tout le monde se connaissait, ce qui était un atout, parce que ça rendait plus facile les interactions. Maintenant, je dois vous dire, probablement, je ne connais plus 90% des avocats qui sont assermentés, sauf ceux avec lesquels je plaide. Et là, alors, mais ça avait un atout, parce que ça rendait... notamment les arrangements beaucoup plus faciles. On prenait le téléphone et on disait, mais on peut pas s'arranger. Et en général, on arrangeait les affaires comme ça. Maintenant, c'est devenu un peu plus compliqué.
Justement, Maître Zuvac, vous avez été assermenté en 2017. Voilà, depuis quelques années, il y a 4 assermentations par an au barreau. Oui, facilement une centaine à chaque fois. Il y a 3400 avocats au barreau en entier. Vous connaissez pas tout le monde?
Non, évidemment que non. Et vous avez raison. Donc actuellement, le barreau compte au son sein 3600 avocats, 3640, il me semble, ce qui est un chiffre quand même énorme pour un petit pays. Et les assermentations annuelles comptent approximativement aux alentours de 400 avocats par an, ce qui est également énorme, d'autant plus que malheureusement la tendance est que voilà, la plupart des avocats c'est peut-être la seule occasion pour eux de se retrouver au tribunal malheureusement et qui continuent à pratiquer le droit au sein de leurs études et non au sein du tribunal. Voilà, ça c'est la tendance de modernité, la tendance de notre temps, puisque il y a de nouvelles branches de droit qui ont vu le jour, notamment le droit fiscal, le droit des affaires, où le conseil est peut-être plus demandé aujourd'hui que le tribunal ou que le contentieux soit. Ça, ses avantages et ses inconvénients, évidemment, parce que bon, j'espère que le fait que nous sommes déjà beaucoup plus nombreux et qu'on a moins, évidemment, de proximité avec les magistrats, eh bien, ça emporte peut-être un petit peu plus d'équité, je dirais, j'espère, en tous les cas. Mais ça aussi, ses inconvénients, puisqu'on perd un petit peu ce côté familial de la profession. Bon, on espère que bon, on peut rattraper quand même le coup grâce aux associations, notamment comme la conférence du jeune barreau, qui justement est là en place pour réunir les jeunes avocats, pour leur offrir un petit peu un cadre d'échange qui peut être très bénéfique, surtout au début d'une carrière d'avocat.
Quand vous étiez jeune avocate, Maître Laurent, est-ce qu'il y avait déjà le jeune barreau qui
venait? Il y avait le jeune barreau.
À l'agenda social,
J'en garde des souvenirs affectueux de soirées très agréables. Il y avait le barreau. Mais il n'y avait pas, par exemple, comme actuellement, il y a une association de pénalistes. Il n'y avait pas les réseaux internationaux. Tout ça s'est créé avec l'évolution de la place financière. Évolution de la place financière qui a aussi requis la création de grandes études d'affaires.
C'est vrai que c'était aussi une profession qui était beaucoup plus homogène à l'époque.
Oui.
Bon, il n'y avait que des luxembourgeois, hein, puisqu'il n'y avait pas encore la loi européenne.
Non, il y avait quand même quelques Français, mais et un ou deux Belges. Mais maintenant, avec le nombre de recrues dont nous avons besoin, 400 par an, dont la plupart sont absorbées par les grandes études, le réservoir de luxembourgeois est épuisé. Donc, il faut aller voir à l'étranger, notamment en France. Et je sais qu'il y a beaucoup d'avocats jeunes étudiants en droit qui regardent d'abord vers le Luxembourg, ensuite seulement en France, parce que tout simplement les conditions sont autrement meilleures dans les grandes études.
Vous avez étudié à Liège?
J'ai fait mes études à Liège, oui, une des rares.
Et c'est vrai que vous, Madame Zovac, vous avez un parcours, on va dire presque plus moderne, puisque voilà, vous n'avez pas été pendant 3 ans dans une faculté de droit, vous avez fait ça par correspondance.
Exactement, exactement. Et ça, c'est justement, si j'ose dire, voilà, une nouveauté que le développement numérique que nous permet aujourd'hui, ce sont les enseignements à distance. Donc, j'étais parmi les premières. J'ai fait toutes mes études à distance. J'ai fait ma licence en droit en France, à Paris 8. J'ai fait mon master à Grenoble. Et ensuite, donc, j'ai dû continuer, évidemment, mon parcours ici à Luxembourg. Donc, j'ai passé mon CCDL et également les examens des langues, évidemment. Mais voilà, moi, j'avais un emploi à temps plein tout au long de mon parcours. Et donc, j'ai dû m'investir vraiment pour avoir accès à ce métier qui m'est tant cher. Et je suis très, très contente qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, justement, d'accéder à ce type d'études. Et pour tout genre de personnes et pour tout genre d'âge, voilà, pour plein de monde, c'est accessible. Vous pouvez accéder au métier qui vous est cher. Voilà.
Est-ce que vous avez senti cette ouverture croissante aussi du profil des avocats lorsque vous plaidiez?
Oui.
Quand
oui.
On a seulement des avocats bon, qui ont suivi aussi les CCDL, hein, donc les cours complémentaires en droit luxembourgeois, et par la suite?
Quelque chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait plus l'examen d'avoué. Donc moi, j'ai fait 5 ans d'études à Liège, parce qu'en France, il y avait seulement 4 ans. En France, en Belgique, il y a 5 ans. Il y avait 5 ans à l'époque. Donc j'ai fait mes 5 ans en Belgique. Lorsque je suis revenue, j'ai fait un cours préparatoire au droit luxembourgeois de 6 mois. J'étais assermentée au mois de novembre. Et ensuite, j'ai commencé mon stage de 3 ans. Et après 3 ans, j'ai fait mon examen d'avoué qui portait sur toute les grandes branches du droit. Et ça vous permettait de boucler la boucle. Parce que vous deviez revoir tout votre droit tout en ayant déjà pratiqué. Donc, moi, j'ai trouvé ça une institution extrêmement saine parce que ça vous donnait de solides bases. Nous n'avons malheureusement plus aujourd'hui. Je le regrette.
Mais c'était une occasion, enfin, cette réforme qui a été introduite justement pour modifier ces conditions, c'était pour permettre à plus de gens d'accéder.
Justement parce que le baron en général et les grandes études plus spécialement ont besoin de gens qui puissent être assermentés, qui puissent être avocats. Ils ont le titre d'avocat, mais la plupart d'entre eux ne plaident jamais. Mm-hmm. Donc, il n'y a que les départements contentieux dans les grandes études qui plaident. Nous, c'est notre pain quotidien. Nous bagarrons devant les juges.
Exact.
Le conseil, c'est que le client vient avec chez vous, il a un problème, il vous expose le problème. Alors, l'avocat vous analyse le problème et vous offre des solutions. Nous, on intervient plutôt lorsque ça va mal. Et lorsque, par exemple, dans des contrats qui, au préalable, ont été élaborés par des avocats conseils, sont source de litiges, et alors c'est nous qui intervenons.
Le bon vieux temps.
Ce qui a surtout changé, c'est la complexité des affaires, notamment en droit des affaires. Nous sommes un barreau qui a la malchance, ou pour moi, la grande chance, d'avoir des affaires, de droit des affaires passionnantes, mais qui sont hautement complexes et qui requièrent aussi des juges une grande spécialisation. Qui, avec le nombre de juges croissants qui est exigé, souvent des juges jeunes sont placés là et ils n'ont pas encore l'expérience requise, du moins au début. Ils l'auront par la force des choses, mais ils n'ont pas encore au début. C'est quelque chose que je regrette, mais je pourrais dire c'est aussi au niveau du barreau. Avec le nombre de gens qui sont requis, souvent nous voyons de jeunes avocats plaider qui n'ont pas l'expérience et qui donc ne font pas la défense que leurs clients méritent. Mais je pense que ça tient au fait de l'accroissement exponentiel des affaires.
Moi, je ne dispose pas de la même expérience que ma consoeur. Donc, je ne peux pas comparer comme c'était avant. Moi, j'étais plongée, on va dire, immédiatement dans cette complexité des affaires et j'ai dû faire avec. Mais il est vrai que j'imagine, en tous les cas, depuis que je travaille à mon compte, donc depuis 3 ans, je me rends compte tout à fait que les choses changent et changent assez rapidement. Ils changent assez rapidement du fait d'évolutions technologiques notamment. Ils changent entre autres parce que la clientèle devient de plus en plus exigeante. Elle devient de plus en plus impatiente. Donc aujourd'hui, les clients veulent avoir une solution juridique rapide et efficace. Ce qu'ils ne comprennent pas, que souvent, notamment dans le cadre d'un contentieux, ce n'est pas possible. Donc, il faut attendre le cours des choses. Il faut laisser l'affaire se faire et il faut laisser faire son avocat, surtout. Et il faut avoir confiance en avocat. Voilà, mais ça, c'est vrai que on est dans un monde qui on est obligé de s'adapter de plus en plus. Après, il y a aussi quand même des bons côtés, notamment au niveau d'évolution digitale. Je suis très contente que depuis le Covid, nous avons enfin aboli les échanges par le fax, même s'il y a encore quelques récalcitrants qui restent, mais enfin, on peut quand même vivre avec notre temps et d'échanger, notamment avec la justice par le biais des emails, et ce qui quand même permet de d'accélérer un peu le cours des choses.
Quand vous pensez que nous avons 3640 avocats, nous sommes un barreau énorme par rapport à l'exiguïté du pays. Nous sommes un barreau en adéquation avec la place financière. Mais nous accumulons un know-how incroyable, de même que nos juridictions. À tel point que souvent, je me demande, lorsque les clients viennent et disent « nous ne voulons pas aller devant les juges, nous voulons faire un arbitrage », je me demande s'ils ne font pas une erreur. Parce que l'arbitrage coûte horriblement cher, dure pratiquement aussi longtemps qu'une procédure devant un tribunal de commerce, et que nous avons des juges siégeant en matière commerciale qui sont très expérimentés. Et vous savez, moi, quand j'ai commencé, lorsque vous plaidiez au tribunal de commerce, vous aviez les factures acceptées, vous aviez, ou en matière civile, vous aviez le 1382. Maintenant, il vous arrive à plaider des problèmes qui tiennent, par exemple, à des fonds d'investissement, à des problématiques de fonds d'investissement à compartiments multiples. C'est une mer à boire. C'est une mer à boire. Mais il faut, alors, et des juges et des avocats hautement spécialisés pour le faire.
Et vous avez senti aussi cette, que techniquement, ça s'est amélioré depuis vos débuts. J'imagine qu'au début, en effet, le fax, c'était le moyen de communiquer avec les juridictions.
Laissez-moi vous raconter une belle histoire. Le premier fax que nous avons eu, c'était en 82, je pense. Et à un moment, il y a une secrétaire qui revient et me dit « ça ne fonctionne pas ». Et on lui demande « mais pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Je l'envoie et ça revient tout le temps. Bon, et 3 ans après, on avait les premiers ordinateurs avec traitement de texte. Quand j'ai commencé, en 80, ils tapaient encore à la machine. Avec et pour faire des copies, vous avez trois feuilles avec des feuilles de, avec des bleus pour faire les copies. C'était, et bien entendu, avec la technologie, est venue l'accélération. Déjà que le fax, vous envoyez un fax et le client appelait après en disant pourquoi j'ai pas encore de réponse. Maintenant, ils vous ont un mail à 10h et à 10h30, elle est où ma réponse? Et ils oublient qu'il nous faut réfléchir, il nous faut chercher des solutions et qu'on ne les a pas toutes prêtes.
Est-ce que ça a facilité aussi le travail de l'avocat, outre le fait de pouvoir rédiger des plaidoiries, des conclusions sur ordinateur?
Certainement. Je ne sais pas si vous avez vu mon bureau, mais moi, j'ai 2 écrans. Un très grand que je peux splitter en 2. D'un côté, j'ai mon accès à Internet pour pouvoir chercher, faire des recherches Internet. De l'autre côté, j'ai mes mails que je vois toujours. Et mon troisième, c'est fait pour faire les textes dans lesquels je travaille. Mais ça me permet de continuellement vérifier ce qui arrive. Donc, je suis à même de répondre aux attentes du client plus facilement et de faire des recherches. Ou avoir accès à des pièces que je... Parce qu'avant, mon bureau, vous voyez, était non seulement avec les documents que vous voyez là, mais il était plein. Parce que là, j'avais des pièces, là, et j'étais en train de rédiger les conclusions à la main.
Et pour l'accès aux décisions de justice, c'était...
La pasicrisie.
Voilà.
Qui faisait un choix de ce qu'ils estimaient être utile, mais vous n'aviez pas le choix. Maintenant, si vous voulez, vous avez accès à justice.lu, où les jurisprudences sont publiées pratiquement 2 ou 3 jours après avoir été rendues. Ça facilitait la vie. Et du fait que vous avez accès aux jurisprudences, la qualité s'améliore aussi. Soit je trouve celle qui calque le plus près possible à ma situation, soit je en trouve une qui m'explique le principe que je peux alors transposer. Donc, pour nous, à ce niveau-là, la vie est devenue beaucoup plus facile. L'intelligence artificielle, je l'ai essayée la semaine passée 2 fois, et la réponse était 0 pointé. Mais il faut qu'elle s'améliore encore. Mais il faut dire que je n'ai pas vu, j'ai pas été sur une intelligence artificielle spécifique pour les avocats. On est en train de chercher laquelle est la plus adéquate pour nous. Mais probablement ça va nous faciliter les choses aussi. Mais à condition de vérifier ce qu'elle nous dit.
Exact, exact.
Parce que parfois elle ment et elle invente.
Oui, je suis d'accord. J'ai fait face à ce genre de mensonge.
C'est vrai que ça fait peur un peu, parce que c'est vrai qu'on se dit un avocat n'a pas le droit à l'erreur quand vous présentez des textes de loi ou des décisions.
Absolument. Mais ils vont jusqu'à vous citer des jurisprudences qui n'existent pas. Donc, il faut toujours que l'homme contrôle, même si le travail est facilité, la recherche est facilitée. En général, les instruments d'intelligence artificielle ont d'excellents styles de français.
Oui.
Mais il faut être très prudent de rechercher si les sources qu'ils indiquent sont bonnes.
Nous sommes au début de cette invention qui est magique et qui va se développer de plus en plus et de plus en plus rapidement. Et évidemment, elle apportera énormément d'utilité, je pense, à tous les niveaux, que ça soit aux avocats, mais ça peut être aussi un ennemi, hein, puisque elle peut être aussi utile aux clients. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à vivre avec ce genre d'outils. Et le fait que, bon, ça reste quand même une machine, elle ne pourra jamais peut-être avoir un recul ou, je veux dire, une expérience professionnelle comme un avocat peut l'avoir. Donc, ça rassure. Ça rassure. Et j'espère qu'elle ne pourra jamais être mieux qu'un avocat expérimenté.
Est-ce que les clients vous demandent si vous avez un outil IA, si c'est pas encore une demande ?
Non, les clients en général sont préoccupés par la solution de leurs affaires. Ils sont également, je pense qu'ils font également, ils regardent également sur l'expérience de l'avocat, sur l'approche que son avocat peut avoir à certaines affaires, mais c'est aussi énormément une relation humaine. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi l'avantage des cabinets de taille humaine qui peuvent encore se le permettre de maintenir leur relation avec les clients. Et voilà, et de la faire fructifier, de la faire évoluer. J'espère que bon, les gros cabinets l'ont également, mais bon, je pense que c'est un petit peu plus compliqué au sein d'un gros cabinet de maintenir vraiment des relations avec sa clientèle.
Bah, c'est vrai que traditionnellement, on a son avocat qu'on va aller voir pour n'importe quel problème. Vous avez connu ça, Maître Laurent?
Oui.
J'imagine que ça existe encore.
Oui, bah oui, ils sont venus, ils viennent, j'ai un problème de bail à loyer. Trois mois après, ça va plus dans le ménage, je veux divorcer. Et ensuite, disons, dans le cadre du divorce, ils ont des sociétés avec leurs épouses et il faut splitter tout ça. Donc, vous voyez, on touche un peu à tout. Mais je pense que la relation humaine avec le client est essentielle. Vous savez, j'ennuie mes stagiaires quand je leur répète tout le temps la même chose. C'est une phrase qui vient d'Alain Duhamel qui dit « L'avocat est celui qui reste quand il n'y a plus personne. » Donc, il faut toujours être derrière son avocat. Le cas échéant, même se mettre devant lui de façon à le protéger contre lui et les autres. Vous devez aussi pouvoir dire la vérité à l'avocat. Et ça, au client. Et si vous n'avez pas de relation humaine avec lui, ça n'ira pas.
Exact.
Et ça, c'est particulièrement crucial quand on est avocat pénaliste, comme vous.
Oui.
Où, voilà, vous êtes amené à défendre des clients qui ont fait une grosse bêtise, on va dire.
Oui, en disant, mon vieux, on ferait peut-être mieux de faire un aveu, parce que si vous êtes coupable, et que c'est pas tant que vous êtes coupable, ne venez pas avec des usures. Dites au juge, OK, j'assume. Je peux vous donner peut-être les raisons qui m'ont amené à faire ça. Et le juge sera attentif et la peine va s'en ressentir.
Est-ce que vous avez vu cette clientèle changer aussi au fil des années ? Est-ce qu'on attend des choses différentes de son avocat aujourd'hui par rapport à avant ? Est-ce qu'aujourd'hui on va aller voir un avocat pour telle compétence et pas parce que c'est l'avocat de la famille ?
vous l'avez déjà dit, je pense qu'ils deviennent de plus en plus exigeants et de plus en plus réticents de payer leur mémoire d'honoraire. Mmh. C'est un problème.
Oui, oui, oui. Le marché est rude. Il y a beaucoup d'avocats. Et voilà, on est nombreux, donc il faut être bon. Il faut être compétent. Mmh. Et il faut être... pas très cher, de préférence, parce que voilà, c'est évidemment quand les gens souvent ont peur de contacter un avocat par peur d'avoir ensuite une énorme note d'honoraire. Mais bon, je pense que lorsqu'il y a justement une relation qui se crée entre avocat et le client, ce genre de questions, je veux dire, ne se pose plus par la suite, puisqu'il y a une confiance, il y a une relation d'affaires qui se noue. Et voilà, et le client, il sait à quoi s'attendre avec son avocat. Parce que qui dit une confiance dit aussi une transparence, donc l'un vers l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans une relation, notamment avec les clients.
Une honnêteté absolue vis-à-vis du client. Mmh. Et il vous le rendra, en général... en ayant la même.
Est-ce que vous voyez des clients qui font un peu leur marché, c'est-à-dire qui essayent des avocats pour voir si ça colle?
Ce qu'on appelle les beauty.
Du shopping des avocats, moi j'appelle.
Souvent en divorce, par exemple, ils vont voir tous les grands avocats de divorce pour qu'ils soient conflictés. Et puis ensuite, ils ont écarté cela et ils vont chez le leur, chez lequel ils ont décidé de rester et... l'époux ou l'épouse doit souvent prendre quelqu'un de moins expérimenté. C'est très fréquent.
Ah, c'est donc ce que vous. Bon, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir un avocat qui, du coup, ne pourra plus prendre
si j'ai donné
le
conseil. Si j'ai donné un conseil, je ne peux plus accepter le mandat pour l'adversaire.
Ah, donc ils contournent, enfin, quelque part, ils utilisent la déontologie de l'avocat.
Oui, oui.
Ouais, c'est...
À l'époque, personne n'y pensait, mais ça devient. C'est ce que. Ou alors, les clients vous contactent et vous disent voilà, on veut vous contacter, mais on a aussi rendez-vous avec d'autres avocats et on choisira en fin de compte celui qui nous conviendra le plus.
Oui, ça c'est quelque chose de terrible à entendre parce que bon, je crois toujours qu'on choisit un avocat, on vient chez un avocat pour ses qualités et non pas pour. Bon, je sais pas, pour ça, son expérience, pour sa renommée, mais pas comme ça. Voilà, je vais vous comparer avec les autres. Enfin, en tous les cas, on le dit pas, peut-être. Même si, voilà, c'est quand même un petit peu de respect aussi vis-à-vis du professionnel à qui vous avez fait une demande. Donc.
Surtout que normalement, un avocat n'a pas le droit de faire de la publicité, il me semble.
À l'époque, c'était absolument défendu. Maintenant, vous pouvez, par exemple, lorsque vous soutenez un club de football, vous pouvez sponsoriser les t-shirts avec votre logo, mais faire la publicité comme aux États-Unis, vous voyez sur les autoroutes le visage souriant d'un avocat qui vous dit « Venez chez moi, je suis le meilleur ». Non, heureusement.
Et pour autant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit aussi sur LinkedIn notamment... un avocat qui va dire bah voilà j'ai fait telle transaction ou voici ce que je pense à tel propos.
C'est une publicité. C'est une publicité indirecte, mais que le barreau admet. Mais le démarchage proprement dit, non.
Et comment est-ce que vous percevez vous cette évolution là, parce que c'est vrai que auparavant on n'aurait pas pensé voilà un avocat aller sur la place publique en disant j'ai gagné une affaire incroyable.
Oui, ou alors sur votre site internet, je conseille un tel et un tel et un tel. À l'époque, c'était absolument inconcevable.
Et pour vous, c'est bien que ça ait évolué ou il faut cadrer quand même?
Oui, mais il faut pas que ça dépasse certaines limites.
Exact.
Et vous qui êtes on va dire de cette génération, hein, réseaux sociaux, etc. Comment est-ce que vous le percevez?
Disons que je peux comprendre cette approche, mais je suis tout à fait d'accord avec Maître Laurent en disant que voilà, il faut toujours respecter certaines limites. Mais je peux comprendre, puisque encore une fois, je gère ma propre étude, je sais ce que c'est un entrepreneuriat, et il est difficile aujourd'hui donc de se faire, parce que encore une fois, on est nombreux. Hein. Il faut continuer, il faut être bon, il faut se faire voir, se faire entendre. Mais il faut le faire de manière à respecter notre règlement de l'ordre et notre déontologie, absolument. Il faut faire ça dignement. On peut mettre en valeur certaines de nos décisions juridiques qu'on a gagnées ou les décisions que nous avons gagnées. Mais voilà, il faut que ça soit quand même digne de notre profession.
Tu dormiras quand tu seras mort.
Je pense que vous aimez autant l'affaire que moi. Après tant d'années, on pourrait dire que je suis fatiguée, mais non.
Oui. Comme je suis arrivée dans cette profession, encore une fois, par conscience, je l'ai choisie et je suis à ma place. Je suis parfaitement épanouie dans ma vie professionnelle. Maintenant, j'aimerais m'investir un peu davantage dans la vie du barreau. Et voilà, pour aider également les jeunes confrères de surmonter les difficultés qu'ils peuvent avoir au début de leur carrière d'avocat.
Mais en général, pas seulement au début. Vous savez, à l'époque, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de notre ancien ministre, Dan Kersh, qui avait dit que les avocats avaient les épaules larges et qu'ils pouvaient payer. Et lorsqu'on lui a répondu que le salaire médian d'un avocat était de 5 500 €. Vous avez ceux qui gagnent beaucoup, mais vous avez aussi ceux qui ont de grandes difficultés à arrondir les fins de mois.
Oui.
Et puis c'est quand même une profession où vous avez quand même des plutôt longues études. Enfin, c'est quand même un niveau bac plus 4, bac plus 5 facilement. Et les premières années, vous êtes en stage. Généralement, c'est des années d'apprentissage où on ne compte pas ses heures. Petites comme grandes études, c'est pas évident.
Après le stage, on ne compte pas ses heures, non.
Je suis d'accord.
oui, mais si vous... Je voulais un jour voir avec le nombre d'heures par rapport à ce que je gagne, ce que ça me faisait. Maintenant, je ne peux plus me plaindre, je gagne bien ma vie. Mais à l'époque, vous savez, nous n'avons pas de week-end. Et nous n'avons pas de soirée tranquille. Quand le client appelle, il faut le prendre, sinon il part.
Oui, et la digitalisation, d'ailleurs, risque d'augmenter encore cette charge, cette présence des avocats permanente, quasi permanente. Donc, c'est quasi permanent. Donc, moi, les week-ends, je suis toujours avec mon ordinateur. Si je pars en vacances, je pars toujours avec mon ordinateur. Je suis toujours connectée. J'ai même arrêté de mettre un out-of-office parce que, de toute manière, je suis toujours là.
Oui.
Donc, ici, c'est pas par là. Via l'ordinateur, c'est via le téléphone. Donc, on est toujours connecté. Bon, il est vrai que il faudrait trouver quand même un moyen aussi d'accommoder la vie privée, la vie professionnelle. Mais c'est vrai que bon, le métier d'avocat, c'est un métier exigeant et il faut vraiment s'investir. Mais s'investir. Personnellement, je sais que je m'investis beaucoup plus dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Mais je ne regrette pas parce que c'est quelque chose qui m'apporte la satisfaction et le bonheur. Et la réflexion juridique, la recherche d'une solution juridique, c'est quelque chose de passionnant.
Et de créatif.
Exact.
Moi, le work-life balance, ça n'existe pas pour un avocat.
Et autant auparavant que maintenant, est-ce que vous trouvez aussi qu'avec avec les mails, etc., c'est encore pire?
J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé 7 jours sur 7. Maintenant, ça a tendance à devenir 20 heures sur 24, ou quoi, parce que vous recevez des mails tout le temps. Surtout avec l'internationalisation, si vous travaillez dans des affaires internationales, les emails que vous recevez des États-Unis, c'est tard la nuit. Et si c'est une grosse affaire qui implique aussi vos responsabilités financières. Si vous faites une faute, eh bien vous répondez à 3 heures du matin.
Mmh. Exact.
Mais c'est un métier qui est tellement passionnant que ben, on voit souvent des avocats, finalement, bon, vous êtes indépendants, libéraux, hein, donc il n'y a pas d'âge pivot de la retraite pour vous. On voit souvent des avocats qui, à 70 ans passés, gardent encore des dossiers.
Moi, j'ai 71 ans.
On va dire que le projet des retraites actuelles ne nous concerne pas trop.
Oui.
Et vous imaginez pas prendre votre retraite, entre guillemets ?
Il se peut qu'un jour je me lève et que je me dise « c'en est assez maintenant » et alors je vais m'arrêter. Ou si mes capacités intellectuelles diminuent, j'ai donné ordre de leur dire de m'arrêter tout de suite. Hein? Donc, ça m'a permis de rester jeune aussi, parce que je suis en contact avec nos jeunes collaborateurs. Donc j'ai un échange avec des gens qui pensent plus moderne que moi. Donc ça me permet de rester à jour.
Et surtout, vous pouvez leur dire aussi comment c'était le barreau pour une femme quand vous avez commencé, parce que dans les années 80, j'imagine que c'était pas déjà une profession qui était pas aussi féminine que maintenant, et puis le traitement des femmes était pas idéal.
Nous étions, je pense, à peu près un tiers de femmes par rapport à 2/3 d'hommes au barreau. Et on ne faisait que le droit de la famille. Parfois du civil. Et le reste, c'était les hommes qui le faisaient. Ça a évolué. Moi, j'avais la chance d'avoir, à l'époque, un associé qui m'a fait travailler sur les grosses affaires, aussi de droit des affaires, et où j'ai pu fermer d'abord mes expériences, mais aussi mes preuves avec les clients. Et c'était extrêmement dur parce que je devais être 3 ou 4 fois mieux qu'un homme. Maintenant que la profession s'est encore beaucoup plus féminisée, je pense qu'on est majoritaire maintenant au barreau. Hein.
Je pense que nous sommes légèrement majoritaires, mais il y a, oui, on essaie de maintenir une certaine parité au sein de nos commissions ordinales, au sein du Conseil de l'Ordre, au sein du comité de la conférence du jeune barreau également. Il y a toujours une certaine parité qui est présente. Nous avons également énormément de femmes de la magistrature, ce qui est
largement majoritaire.
Ce qui est largement, voilà. Et ça, ça aide également, puisque, lorsqu'il y a des avocats femmes et les magistrats femmes, eh bien, il y a un autre équilibre qui est apporté quand même au sein des tribunaux. Mais on a encore des progrès à faire, je pense, à ce niveau-là. Et notamment, je sais qu'il y a quand même difficile pour certaines femmes de continuer leur carrière professionnelle et également le côté maman en élevant les enfants et de bien cumuler les deux. Mais je pense que bon, on est de mieux en mieux au sein des cabinets à proposer même le télétravail pour les femmes ou pour les mamans, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de départs quand même du barreau, des femmes qui quittent vraiment la profession, voilà, pour se consacrer à leur famille.
Ou qui rejoignent la magistrature. Maintenant, j'ai appris qu'il y avait une excellente avocate qui va en rejoindre la magistrature, qui va en gagner. Mais nous allons perdre.
Mmh. Ben c'est vrai que le nœud de cette histoire, c'est effectivement la conciliation vie privée et vie professionnelle.
Oui.
Quand on est dans la magistrature, a priori, on a des horaires qui sont à peu près fixes. On peut mieux gérer son emploi du temps, en tout cas, à l'avance, et se dire, OK, là, j'ai des audiences, là, j'en aurai moins, je pourrais plus travailler à côté, etc. Mmh. Quand on est avocate, c'est pas du tout la même chose.
Mmh. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu pas mal d'affaires en France où les femmes, elles étaient obligées de plaider les affaires alors qu'elles étaient
enceintes de 8 mois.
Oui, enceintes de.
Mais même passées en dernier à 9h du soir.
Oui, ce qui est scandaleux. Bon, nous n'avons pas de cas similaire à Luxembourg.
Non.
heureusement.
Non, 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 non. Et je pense que là, la magistrature est extrêmement compréhensive, notamment aussi parce qu'elle est pratiquement majoritaire maintenant, féminine.
Ah, c'est jeune.
Est-ce que vous avez l'impression que les générations d'aujourd'hui essayent un peu plus d'avoir tout, c'est-à-dire d'avoir une vraie vie de famille, mais d'être avocat quand même? Est-ce que vous sentez que les jeunes générations, elles poussent un peu pour changer aussi des choses qui étaient traditionnelles, mais qui sont peut-être pas vouées à rester ainsi finalement?
Certainement plus pour leur vie privée. Donc la work-life balance, c'est pour le life. Mais je me demande si en fin de compte, si vous avez la conception que nous deux, vous semblez avoir et que moi j'ai certainement, c'est que pour moi, mon travail d'avocat prime. Et donc, je ne peux pas faire ce choix, c'est le work. Et je pense que ça, quelque part, je crains que ce soit inhérent à la profession.
Je suis tout à fait d'accord. Et récemment, notamment dans le cadre de mon recrutement des jeunes avocats, j'essaie de faire passer le message en disant que ce n'est pas un travail que vous choisissez, c'est un choix de vie. C'est un mode de vie, cette profession. Et surtout dans les premières années, quand vous allez vous investir en tant qu'avocat, eh bien, vous avez énormément d'apprendre. Donc, vous pouvez pas... Enfin, même si mon souhait, ça serait oui de d'offrir à un avocat stagiaire de pouvoir, avoir la vie privée et la vie professionnelle comblée. Eh bien, moi, j'offre la liberté à la personne, mais je veux voir de cette personne qu'elle a envie de s'investir, qu'elle a envie de progresser. Eh bien, par contre, je le laisse le choix de s'organiser. Mais tout en cherchant une personne vraiment passionnée, et une personne passionnée, elle va s'investir.
Je pense que la profession d'avocat, c'est pas une profession, c'est en fait une vocation.
Oui.
Est-ce que vous voyez des nouvelles habitudes des jeunes générations qui, vous dites, ah bah tiens, ils font autrement. Alors c'est mieux ou moins bien, mais est-ce que vous sentez que on a changé de génération?
Je les sens moins résistants au stress.
Oui, oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'avocats contentieux. Il y a plus d'avocats qui, on va dire, juristes ou avocats conseils qui restent au sein des études et qui essayent d'éviter le stress qui vient forcément avec ce métier. Parce que quand vous êtes avocat en contentieux, vous êtes confronté à un stress incroyable.
Et parce que vous êtes quand même, quand vous êtes en audience, il faut convaincre un magistrat, il faut s'opposer à l'autre avocat qui présente
absolument
des arguments différents. Vous êtes
pendant 3 heures en audience où il faut être aux aguets, non seulement quand vous plaidez, mais quand l'autre plaide, puisqu'il faut être capable de leur répondre. Et nous, lorsque nous sortons d'une audience compliquée, nous sommes lessivés.
Et en plus, il faut rassurer le client qui est à côté de vous qui est en train de transpirer.
Tout à fait. Tout à fait. Parfois, les affaires qu'on défend, je dirais pas les clients qui jouent la vie, puisque la peine de mort est abolie, Dieu merci. Mais il y a des affaires qui sont extrêmement complexes et importantes. Il est vrai que même si je joue pas la vie, mais il y a énormément en jeu. Et donc il y a stress évidemment qui accompagne les clients et qui partagent forcément ce stress avec vous. Et vous devez non seulement le rassurer en tant que juriste, mais parfois il faut faire aussi le psychologue. Donc on essaye de gérer ce stress, mais forcément, même si le principe d'indépendance et de rigueur. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des humains avant tout. Et moi, personnellement, je ne suis pas étrangère à la peine qu'il peut ressentir mon client.
Finalement, vous êtes vraiment dans le bateau avec votre client du début à la fin?
Oui. L'avocat est celui qui reste quand il n'y a plus personne.
C'est ce qui est beau aussi dans le métier.
Ah oui.
Oui. Et vous ressentez une reconnaissance est-ce que les clients se rendent compte de ça, de tout ce que vous investissez pour eux?
La plupart du temps, non. Mais quand vous l'avez, ça fait plaisir.
C'est ça que l'image de l'avocat, bon, on a quand même souvent le cliché, bon, vous l'avez dit, hein, l'avocat est forcément cher.
Il gagne trop.
Voilà, il gagne trop. Et on l'a vu au golf il y a 2 semaines. Mm-hmm. Donc...
Avec sa grosse bagnole.
C'est ça. Mm-hmm.
Tout le temps en vacances. Mm-hmm.
Et puis, c'est, permettez-moi, c'est une grande gueule. Enfin, voilà, il en impose. Qu'est-ce que vous entendez d'autre sur les avocats? Est-ce que c'est facile d'être dans une profession qui n'est pas forcément comprise?
Vous savez, le grand problème, c'est que les gens croient que les avocats sont chers. Nous en avons qui exagèrent incroyablement. Mais l'ordre des avocats, les taxes. Et diminue ce qui est manifestement surfait. Il y en a. Mais souvent, je vois les clients et je leur dis, voilà, là et là et là est votre problème, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu avant? Oui, mais vous êtes trop cher. Et la réponse est, maintenant ça va coûter 3 fois plus cher pour tout mettre en ordre. Voilà.
C'est exact. Je suis tout à fait d'accord avec cet argument, parce que si les gens, les clients auraient l'intelligence de venir un peu plus tôt chez l'avocat pour demander le conseil, même si ce conseil est payant, mais ce conseil peut vous épargner de nombreux soucis par la suite. Voilà. On dit le radin paye 2 fois.
C'est bien vrai.
C'est bien vrai.